Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, Ituri, après avoir été suspendu pendant 3 jours, le trafic entre Bunia et Mahagi sur la route nationale numéro 27 et sur l'axe Mungwalu a repris normalement hier samedi. C'était à la suite des manifestations des miliciens de Zaïre à Iga Barrière, un centre de négoce à 25 km au nord de Bunia, dans les territoires de Djougou. Au Kasaï oriental, la route qui passe par la paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste de Bonzola en Bujimaï doit demeurer propre un mois et demi après sa modernisation. Le curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance Poundé invite la population de Mbujimaï ainsi que d'autres églises à emboîter les pas à ses paroissiens en entretenant cette route. L'invité de ce journal est M. Vincent Semou, spécialiste du pied-botte chez Il Africa. Il parle des stratégies d'une lutte commune contre cette malformation congénitale qui a plusieurs conséquences sur la vie des malades. Encore une fois, merci d'être avec nous, mesdames, messieurs, bonjour. En Ituri, le trafic entre Bunia, Mahagi, sur la route nationale numéro 27 et sur l'axe Mungwalu a repris normalement samedi, après avoir été suspendu pendant 3 jours à la suite des manifestations des miliciens de Zaïre à Iga Barrière, un centre de négoce situé à 25 km au nord de Bunia, dans les territoires de Djougou. Ces jeunes armés manifestaient leur mécontentement après l'arrestation par la justice militaire de Christian Outeki, président de G5, une structure qui regroupe les communautés qui se disent victimes des atrocités des groupes armés. Dans sa communication ce dimanche, l'armée rassure que la situation sécuritaire dans cette entité est sous contrôle et appelle ces jeunes qui, selon elle, instrumentalisés à la retenue et de laisser la justice faire son travail. Le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, est au micro de Martial Kizabiamungu.
La situation est calme sur toute l'étendue de la province de l'Ituri, en particulier dans la ville de Bunia et ses environs, hormis quelques velléités de troubler l'ordre public dans certains coins de la province du côté de Iga Barrière, où nous avons vu certains petits instrumentalisés pour une cause injuste, pour une cause qui est d'ailleurs à la justice, pour une affaire qui est à la justice, mais on a voulu manipuler, instrumentaliser la population, je ne sais pas pour quel objectif, si ce n'est pas de détruire et de troubler l'ordre public établi d'ailleurs difficilement au péril de notre vie. Nous rassurons encore une fois notre population et que partout où l'ordre public serait troublé, les forces de défense et de sécurité ici en Ituri sous le commandement du lieutenant général Luboya Nkashamadjoni fera que son travail.
Dans la province de la Tchopo, le commandant urbain de la police nationale congolaise a présenté hier samedi au maire de la ville de Kisangani un bandit de grand chemin. Le surnommé Manou était activement recherché depuis plusieurs mois à cause de divers griefs mis à sa charge, notamment association de malfaiteurs. Gardé présentement au cachot de la PNC, il sera déféré devant la justice militaire pour répondre de ses actes. Les explications avec Jacques Moukonkolé.
C'est au terme de plusieurs mois de recherche active effectuée par les services de sécurité que le surnommé Manou a été finalement arrêté dans un lieu de divertissement par la police. Le commandant de la police urbaine, le colonel Floribert Kingombe, précise que cette arrestation est intervenue il y a 3 jours au sortir du concert de Werrason à Hawaï où il a été repéré par ses éléments. Au maire de la ville, le colonel Floribert Kingombe a expliqué les motifs de son arrestation, notamment l'association des malfaiteurs, extorsion, incendie criminel et meurtre. Au total, 9 chefs d'accusation. S'agissant de meurtre, il l'aurait commis en octobre dernier. Il avait en effet frappé un homme d'une grosse pierre à la tête, causant ainsi sa mort. Mais quelques mois auparavant, souligne le commandant de la police urbaine, Manou avait mis le feu au bureau de l'Assemblée provinciale la veille de l'élection du gouverneur de province. Tout en félicitant la police pour ce joli coup de filet, le maire de la ville de Lilikoundé exhorte la population à la vigilance. En même temps, il lui recommande de dénoncer tous les malfrats à la police pour sa sécurité. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Kapi.
Au Maniema, un présumé kidnappeur d'enfants est aux arrêts. Il a été présenté ce week-end au gouverneur intérimaire. Selon Afani Idrissa Mangala, Les premiers résultats de l'enquête révèlent que les enfants kidnappés étaient gardés dans les canaux rapides de Salomon Idi Kalonda, conseil spécial de Moïse Katumbi. Allégation rejetée par le parti Ensemble pour la République qui parle d'un énième complot monté contre la personne de Salomon Idi Kalonda Dela pour le salir inutilement. Florence Kizalunga, reportage.
Le présumé kidnappeur d'un enfant de 12 ans il y a 7 jours a été arrêté à Kampene par les services de sécurité. Selon le témoignage de l'enfant victime de cet enlèvement rapporté par le gouverneur intérimaire du Maniema, son bourreau et deux de ses complices les gardaient dans des canaux rapides dont l'un appartiendrait à Salomon Kalonda au but central de Kindu. Afani Idrissa.
Ces canaux-là, identifiés comme les canaux rapides d'un politicien qui est aux arrêts à Kinshasa, à cause de cette complicité criminel dans ce pays. Je voudrais que ce monsieur soit jugé en flagrance. Que dès maintenant, ces trois canaux cités par cet enfant, un seul est déjà identifié, c'est le canot de Salomon. Les deux autres canaux rapides seront dévoilés au public le jour de l'audience.
Ensemble pour la République parle d'un énième complot monté contre Salomon Kalonda. Jeff Chomba Fariala est le premier suppléant de Salomon Idi Kalonda.
Ça m'a indigné que l'autorité provinciale puisse sortir de ce genre d'affirmation sans suffisamment d'éléments de preuve. C'est un montage comme les autres montages qu'on a essayé de faire à Kinshasa, qui n'ont pas pu aboutir faute de preuves. C'est encore une fois de plus un énième montage qu'on est en train de chercher pour salir et nuire à la personne de Salomon politiquement.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis l'auditorat militaire garnison de Boutembo a procédé hier samedi à la libération de 50 détenus, dont deux femmes, de la prison Kakwangura de Boutembo. Le capitaine magistrat Georges Nkua Milosi, l'auditeur militaire garnison de Boutembo, explique que pour lui, c'est une façon de célébrer les 25 ans d'épiscopat de Mgr Sikouli Paluku Melchisedek, évêque du diocèse de Boutembo, Béni. Les détenus libérés sont ceux qui avaient été arrêtés pour des faits bénins. Le capitaine magistrat Georges Nkua Milosi revient sur cette décision au micro de la cellule de communication de la police de Boutembo dans un extrait choisi par Gulen Kassassia.
Vous savez, dans la ville, il y a un grand événement qui est le jubilé de Mgr Melchisedek. Chacun a ce qui le concerne peut aussi célébrer cette fête à sa manière. Quand vous lisez la Bible, dans les livres de Lévitique, on explique que lorsqu'on célébrait la fête des jubilés, à quelque occasion que ce soit, on procédait aussi à la libération des esclaves. Moi, j'ai voulu célébrer à ma manière cette fête de Monseigneur en libérant 50 prisonniers à qui j'ai offert un petit repas, si petit soit-il, mais c'était une manière pour moi aussi de célébrer cette fête du jubilé de Monseigneur. Je leur ai dit clairement qu'ils ne sont pas libérés parce qu'ils sont innocents. Ça, il faut qu'on se le dise. Ils ne sont pas libérés parce que nous n'avons pas pu clôturer leur dossier, non. Les faits sont établis et ils méritaient la prison. Mais seulement pour les événements, comme je vous ai dit qu'il fallait aussi participer à cette célébration de la fête du jubilé, en libérant des personnes que nous estimons les faits sont bénins. Je leur ai donné un conseil simple de leur dire de ne pas reprendre. Parce que s'ils reprenaient, ils vont revenir. Et s'ils revenaient, je vais considérer qu'ils sont incorrigibles, et alors chacun sera porteur d'un document pour que d'autres services ne tombent pas dessus pour dire qu'ils se sont évadés.
Pour rappel, 87 premiers détenus de la même prison ont été libérés mercredi dernier par une délégation de la Cour d'appel du Nord Kivu. Il s'agit de ceux qui étaient venus de Rutshuru à cause de l'occupation du M23. Au total, 137 détenus ont ainsi recouvré la liberté en l'espace d'une semaine à la prison de Kakwangura de Boutembo. En politique, la Ligue des Jeunes de l'Union Sacrée du Tanganyika appelle à l'unité de tous les partis politiques membres de cette plateforme politique. Dans une déclaration hier samedi à Kalemi, cette structure a demandé en outre au Présidium de l'Union Sacrée d'intervenir urgemment pour trouver une solution face à la division observée au sein de l'Union Sacrée Tanganyika. Dans cette province, en effet, deux courants se réclament, chacun de l'Union Sacrée de la Nation. On écoute Paulin Kangoudia, coordonnateur de la jeunesse de l'Union Sacrée au Tanganyika, dans ce texte choisi par Paulin Munanga.
Loin de nous, l'idée de soutenir tel ou tel autre leader provincial de l'Union Sacrée de la Nation Tanganyika. Nous interpellons à ce jour les leaders provinciaux à se mettre ensemble autour d'une table, vu que le linge sale se lave en famille. Tous les partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation Tanganyika devraient, pour la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous demandons au Présidium de notre plateforme politique au niveau national d'intervenir urgemment sur la situation difficile que traverse l'Union sacrée Tanganyika en bon père des familles afin qu'elle atteigne les objectifs lui assignés dans l'unité.
Sous un autre chapitre, la Journée internationale de la jeunesse a été célébrée hier samedi, le 12 août, comme à l'accoutumée chaque année. À Beni, au Nord Kivu, plusieurs activités ont été organisées par des structures de jeunes de la place, notamment un culte, des conférences, débats et même une marche pacifique pour la cohésion sociale. Pour le président de la jeunesse de la commune de Moulikira, cette journée devrait être une occasion pour le monde et le gouvernement congolais de braquer les projecteurs sur la situation des jeunes. Gerlas Mukokoma invite toutefois les jeunes à ne pas se décourager face aux difficultés qu'ils éprouvent au quotidien. Il est au micro de Gulen Kassassia.
Nous sommes à l'église de Mantrantele. C'est un temple où la jeunesse a choisi pour venir adorer Dieu, pour montrer notre cohésion sociale. Pendant cette journée, c'est aussi une occasion de pouvoir appeler notre gouvernement et la communauté internationale, de pouvoir jeter un œil particulier à la jeunesse, de pouvoir créer des entreprises, des sociétés pour l'encadrement de la jeunesse. Nous n'avons pas des emplois. Certains d'entre nous peuvent être sollicités dans des groupes armés parce qu'ils n'ont aucun emploi. À la jeunesse aussi, d'avoir l'esprit de l'entrepreneuriat, car tout le monde ne deviendrait pas président. L'unité crée la force. Chers jeunes et bénis, nous devons prendre notre destin à main. Collaborons avec la police, avec l'armée. En fait, nous allons faire un défilé de la paix, un défilé de la cohésion sociale de la jeunesse, un défilé pour montrer au monde que malgré les sécurités, à Beni et encore la vie.
Au Kasaï oriental, la route qui passe par la paroisse catholique Saint-Jean-Baptiste de Bonzola en Boujimaï vers l'Assemblée provinciale doit demeurer propre un mois et demi après sa modernisation. C'est ainsi que chaque samedi, les chrétiens de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance Poundé, conduits par leur curé, entretiennent cette route pour la rendre salubre. Abbé Blaise Kandé, curé de la Poundé, invite à cet effet la paroisse d'Mbujimaï ainsi que d'autres églises, la population d'Mbujimaï ainsi que d'autres églises à emboîter ce pas et à nettoyer les routes récemment asphaltées sur la ville d'Mbujimaï. Il est au micro d'Esther Ndalafina.
Notre paroisse est dans le quartier. Donc nous sommes dans le doyenné de Bonzola et on nous a arrangé l'avenue de l'Assemblée provinciale et elle passe par Bonzola. Nous nous sommes dit, ben, le gouvernement a fait quand même quelque chose, que nous puissions lui montrer notre joie et notre soutien en entretenant la route. Et puis une manière de l'interpeller aussi à achever le travail parce qu'on a rangé la route, mais le trottoir, quand on ne l'a pas rangé, la poussière va toujours salir la voie publique. Alors, mais nous, nous avons dit, bon, avant que le gouvernement ne fasse tout ce qu'il doit faire, que nous, nous nous mettions à arranger les routes. Et puis en plus, nous voulons interpeller la population, inviter tous ceux qui profitent des nouvelles avenues arrangées là, à se battre pour rivaliser de propriété, que chaque quartier puisse dire, nous voulons que notre avenue soit la plus propre, la plus entretenue. Et ainsi, nous encouragerons le gouvernement et nous encouragerons nous-mêmes à rendre notre cité propre. Si chaque quartier peut faire ça, s'il y a une église à côté d'une avenue arrangée, peut aussi faire ça. N'importe quelle avenue, on peut arranger nos routes, on peut arranger nos quartiers. Nous pouvons faire comme devoir citoyen, entretenir nous-mêmes nos routes. Ça serait une bonne chose. Nous voulons qu'il y ait beaucoup de gens qui imitent cet exemple.
L'intersyndicale de l'Office national des transports attend du nouveau comité de gestion récemment nommé par ordonnance du chef de l'État la relance effective du trafic fluvial et ferroviaire. C'est ce qu'a déclaré Armand Ossassé, président de l'intersyndicale de l'ONATRA. C'était hier samedi à Kinshasa au cours d'un point de presse. Armand Ossassé parle d'un programme d'urgence à lancer rapidement avec 10 bateaux et 20 barges, aussi bien la reprise du trafic ferroviaire, express et marchandises entre Kinshasa et Matadi. Je vous propose de l'écouter.
Nous remercions sincèrement Monsieur le Président de la République d'avoir nommé Fils Maison à la tête du conseil d'administration, Monsieur Mathieu Mananga, c'est un expert. Le Président de la République a donné plusieurs institutions. Vous savez que nous avons notre créance de 207 millions et cet argent c'est pour permettre à la société de payer dès 1913 les traités, payer aussi une partie pour les actifs de leur salaire. Le président vient de prendre d'autres décisions pour la reprise des trafics fluviales ainsi que les trafics ferroviaires. Mais là, dépend de la volonté aussi du gouvernement. C'est la mission que le chef de l'État a donnée au conseil d'administration de veiller à ce que l'ONATRA retrouve sa phase de relance. Et là, nous avons un programme d'urgence, reprise des trafics fluviales, 10 bateaux, 20 barges. Il y a la reprise des trafics ferroviaires, la reprise urgence des trafics tels que je viens de citer, ferroviaire et puis fluvial.
Actualité internationale.
Au Congo-Brazzaville, une quinzaine d'organisations non gouvernementales congolaises se sont regroupées en coalition pour mener un travail de veille face aux décisions que le gouvernement pourrait prendre après la montée des prix des denrées alimentaires et l'augmentation du coût du super à la pompe. Cette coalition entend mener des actions à court, moyen et long terme. Et puis une délégation de religieux du mouvement Wahhabite a été reçue à Niamey hier samedi. Ils ont rencontré le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeyn qui les a accueillis sur le tarmac de l'aéroport et se sont entretenus avec le chef de la junte Abdourahmane Tiana.
L'invité.
L'invité de ce journal est M. Vincent Semou, spécialiste du pied de botte chez Huile Africa. Il parle des stratégies d'une lutte commune contre cette malformation congénitale qui a plusieurs conséquences sur la vie des malades. Une question au centre hier samedi, des échanges avec des leaders religieux de la ville de Beni, au Nord Kivu. Vincent Semou, spécialiste du pied de botte chez Huile Africa, s'entretient avec Gulen Kassassia.
Bonjour.
Bonjour Madame Gulen.
Vous êtes en train d'échanger avec les leaders religieux de la ville de Beni. On peut savoir sur quoi porte cet échange?
Merci beaucoup Madame Gulen. La rencontre d'aujourd'hui porte sur un objectif majeur qui consiste à une détection précoce et référencement des cas de pieds bots. Et les cas de pieds bots, c'est une malformation congénitale qui fait à ce que, au lieu qu'un enfant ou une personne puisse marcher sur la plante des pieds, il marche sur les dos de son pied.
Pourquoi vous avez ciblé les leaders religieux?
Nous voudrions préciser ici que notre organisation est chrétienne et nous sommes toujours en collaboration avec les leaders religieux. Et notre objectif principal de les inviter, c'est pour qu'ils puissent nous aider à détecter précocement la malformation des pieds bots, ça c'est la première des choses. Et ensuite, nous référer ce genre de cas pour que nous puissions les soigner dans les différentes cliniques que nous organisons au pays. Comme ça se dit bien, les leaders religieux, ça veut dire derrière eux, ils ont des gens. Et donc, la conjugaison de toutes ces personnes-là qui les fréquentent, ça fait ce que nous ne puissions pas avoir les cas des pieds bots parce que notre objectif, c'est d'éliminer les pieds bots. Si ça sera possible, effectivement, avec les concours des uns et des autres.
Mais les leaders religieux vont détecter comment?
Voilà. Ils vont détecter à partir des différents signaux que nous venons de les expliquer. Ils ne savent pas que ces cas étaient curables. Donc, nous les informons que ces cas sont curables, les signaux qu'ils présentent, et ensuite, s'ils les trouvent, qu'ils puissent nous les envoyer dans les différentes cliniques que nous organisons.
Selon vos analyses, selon vos recherches, compte tenu du sexe, ouais, quelle est la catégorie qui est plus touchée?
Par rapport au rapport concret que nous avons en RDC, par exemple, nous constatons que ce sont plus les garçons qui sont exposés aux pieds bots parce que pour l'année 2022, par exemple, nous avons réussi à soigner 806 cas et dans ces 806 cas, nous avons eu 66% des garçons et 34% des filles. Et ça, c'est au niveau de notre pays. Et si on va au niveau mondial, on constate la même chose. Ce sont plus les garçons qui sont exposés que les filles.
Et les causes?
Jusque-là, en tout cas, on n'a pas de justification majeure par rapport à ça. C'est un constat que nous faisons. Mais par rapport aux causes des pieds bots, là aussi, les recherches continuent. Mais ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui, ce sont les différents facteurs qui peuvent prédisposer à ce qu'un enfant puisse avoir les pieds bots. C'est par exemple un problème d'ordre héréditaire. Nous sommes en train de constater que dans certaines familles où il y a eu un enfant, un parent, un arrière-grand-parent qui avait les pieds bots, il y a lieu que dans cette famille, on puisse encore avoir un autre cas de pieds bots.
Est-ce que cela ne dépend pas aussi de milieu?
Voilà, ça dépend aussi parfois des milieux, les facteurs environnementaux, parce que dans nos différentes cliniques que nous organisons ici, dans les Grands Nord Kivu, nous sommes en train de constater qu'il y a beaucoup de cas de pieds bots. Il y a lieu de marier ces problèmes d'ordre d'insécurité et la présence des cas de pieds bots. Néanmoins, ce n'est pas encore une cause parce qu'il y a ceux qui naissent dans cet environnement, ils n'ont pas de pieds bots. Mais c'est un facteur qui est en train de rehausser nos statistiques dans cette région ici du Grand Nord Kivu à cause de ce qui se passe dans cette province.
Oui, vous avez quand même invoqué l'aspect que c'est une malformation qui est curable. Oui. C'est à quel âge que l'enfant peut être récupéré?
Dans les traitements que nous faisons chez Hope Works, nous utilisons la méthode Ponseti. La méthode Ponseti consiste à utiliser deux phases principales dans les traitements. La première phase, c'est la correction où nous utilisons les plâtres et la deuxième phase, nous utilisons les attelles. Alors, c'est une méthode qui est plus pratique chez les petits enfants. Ça veut dire à moins de 2 ans, de 0 à 2 ans, la méthode est tellement efficace jusqu'à plus de 95%. Et que donc, brièvement, nous soignons plus les enfants avec cette méthode.
Et quand on dépasse cet âge ?
Dépasser cet âge, c'est possible à ce qu'on puisse récupérer certains cas, mais c'est toujours souhaitable à ce qu'on puisse venir avant 2 ans.
Mais quelles sont les conséquences de cette malformation ?
Voilà, une fois ce n'est pas soigné, premièrement, la personne aura difficulté de marcher. Deuxièmement, c'est que la personne sera stigmatisée dans sa communauté. Ça va faire mal à cet enfant lorsqu'il va grandir, parce qu'il y a d'autres enfants qui vont l'éviter. Et plus tard encore, quand il grandit, dans certaines fonctions, on ne parvient pas à l'accepter. Ici, je cite certaines fonctions comme l'enseignement. Et donc, madame, il y a beaucoup de conséquences pendant qu'on est enfant et même quand on devient adulte.
Vous avez dit que jusqu'à l'âge de 2 ans, c'est gratuit.
Voilà, c'est un message que nous apportons à la communauté qu'une fois on rencontre un cas de pied bot, c'est très important de les référer parce que la prise en charge est gratuite si les enfants nous arrivent entre 0 et 2 ans.
Monsieur Semou Vincent, nous vous remercions.
Merci, madame.
Monsieur Vincent Semou, spécialiste du pied bot chez Île Africa, était notre invité. Il s'est entretenu à Béni au nord Kivu avec Guylaine Kassassia. Fin de ce journal qui a été supervisé par Pelé Kipelamondo, coordonné par Jacques-Yves Molima, Pierre Diassinois, la mise en onde. Merci à vous de l'avoir écouté.